Salut, c'est François. On se retrouve sur le nouvel automobiliste Road Story Automatin pour un nouvel essai, un peu en deux parties, vous allez voir, de la BYD Dolphin et que j'ai intitulé, vous allez voir pourquoi, copie à revoir. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller lire sur le site du Nouvel Automobiliste ou à écouter en podcast mon essai de la BYD Atto 3, la version SUV de la BYD Dolphin issue de la même plateforme. En substance, la synthèse de mon essai était rien de génial, rien de mauvais, mais au global une auto qui reste un peu chère face à l'épouvantail Tesla et même face aux ID3 et Mégane, au tarif 2024 repositionné et accompagné d'une présence de bonus que n'a plus la chinoise. Enfin, si un jour on a un décret d'application. Si la BYD Dolphin a été développée donc sur la même plateforme technique que l'Atto 3, vous verrez tout au long de cet essai que le résultat n'est pas tout à fait le même. À l'extérieur, beaucoup de mes camarades journalistes n'ont pas adhéré au design de la petite BYD. Pour ma part, je trouve que son design n'est pas désagréable avec une face avant qui a des faux airs de sable. Mais j'aurais un petit regret. Le profil avant façon monospace génère un grand angle mort à l'avant gauche quand on conduit. La petite vitre intercalée dans le montant n'y changeant pas grand chose. La qualité de la peinture est à signaler. En effet, une belle peinture sans peau d'orange est de plus en plus rare dans la production des constructeurs généralistes et même premium. Si vous voyez la qualité d'une peinture de Range Rover à 180 000 euros, vous pleuriez. Et là, quand on voit le résultat fait chez les Chinois, c'est autre chose, il faut le reconnaître. La version design, que j'ai essayé en deuxième partie, propose même de série une peinture biton, qui a un aspect assez sympa. J'ai roulé avec la BYD Dolphin sur des routes enneigées et j'ai remarqué un détail, que les bas de caisse que l'on découvre quand les portes sont ouvertes sont recouvertes de saleté collectée par la route. Pas très qualitatif de voir de la boue ou des traces d'herbe, etc. à l'ouverture des portes. Et surtout, pas évident de ne pas se salir, de ne pas salir son pantalon ou sa robe en montant ou en descendant à bord. Donc on parle d'accéder à bord et à l'intérieur, le style adopté est un peu caricatural. Cette ambiance marine, c'est un peu la thématique chez BYD. Et oui, là on parle du Dolphin, mais c'est plutôt propre, bien fini, avec fort peu de plastique dur. Si l'écran central tourne, on peut choisir la position verticale ou horizontale. Cela reste pour moi un gadget un peu inutile. On aurait préféré un écran de combiné instruments un peu plus grand. Par exemple, l'indicateur de panneau de vitesse, et on y reviendra, est tout petit et c'est assez déstabilisant. En tout cas, on aurait besoin de le voir un peu plus gros. C'est peut-être moi qui ai la vue qui baisse. La sellerie est travaillée, sympa, avec un look sport, grâce à des sièges qui intègrent les appuis-têtes, donc qui font très sport, très un petit peu Mercedes AMG. En termes de revêtement, pas de tissu disponible, mais je le dis, une escroquerie de cuir vegan, en clair du bon plastique, qui est fait avec du pétrole, donc je ne vois pas où est l'écologie et le vegan. Vous l'avez compris, je préfère un bon tissu à une sellerie en sky. Retenons, une vraie valeur ajoutée produit, sur tous les niveaux d'équipement, les sièges avant sont électriques, échauffant sur la version haut de gamme. C'est en plus de ce fait très facile de trouver une position de conduite idéale. La BYD Dauphine est équipée d'une pompe à chaleur. Quand j'ai essayé sa grande sœur, la Atto 3, cet été dans le sud, j'avais trouvé que la climatisation n'était pas très efficace. Cette fois-ci, en hiver, c'est le chauffage et le désembuage de la BYD Dauphine qui me déçoivent. L'écran de réglage du chauffage laisse entendre que la climatisation est bizone. Ce n'est qu'une monozone, mais ce n'est pas très grave. Mais surtout, elle est un peu pas zone du tout dans certains cas. Rien de bien grave, sauf que le chauffage vers les pieds est quasi inopérant côté conducteur. En poussant le chauffage, vous avez au mieux les mollets chauds, mais les pieds glacés. Pas top en montagne ou en période hivernale. Et aussi, côté désembuage des vitres avant, vous remarquerez sur les photos, les bus de ventilation ont dans leur axe de diffusion le haut des panneaux de porte. Un peu embêtant, c'est quand même la partie de la vitre latérale que l'on regarde pour voir dans les rétroviseurs qui n'est pas désembuée. Un autre petit détail, les bus s'ouvrent et se ferment en tournant une molette, mais sans indication. Dans le noir, c'est bien compliqué de savoir si l'on ferme ou si on ouvre le flux d'air, si celui-ci n'est pas au maximum. Notre version haut de gamme est équipée d'un toit vitré plutôt très grand, sympa, qui arrive plutôt vers l'avant. Mais petit détail, énervant, mais peut-être que cela se configure. Même en hiver, le rideau se referme automatiquement à chaque fois quand vous laissez la Dolphin au parking. Comme souvent sur une électrique, l'espace aux places arrière est très confortable. Le coffre dispose de 345 litres avec un tiroir sous-coffre pour ranger les câbles de recharge. Pour avoir un point de comparaison, le coffre de l'ID3 occupe 385 litres, donc 40 litres de plus. Et si la largeur extérieure 1,77 m est très proche de l'ID3, 1,80 m, l'habitabilité de la chinoise m'est apparue plus réduite que ses chiffres extérieurs. Au volant, deux essais différents, mais qui se rejoignent au final. Le premier essai a été réalisé en juillet 2023 avec une auto qui est équipée de pneus chinois, les Ling Yong, modèle Comfort Master, en 17. Attention. Qui équipait aussi la petite Dacia électrique et qu'on avait trouvé exécrable. Et un deuxième essai en janvier 2024 avec des pneus en couque et un réglage de l'arrivée de la puissance un petit peu recalibré et assagi. Donc, premier essai sur le sec en été. Dès que l'on accélérait, on constatait un patinage incessant avec des déports de gauche et de droite. Un peu l'impression pour les vieux comme moi de rouler dans une 309 GTI 16 en 89. J'avais été vraiment surpris avec mon Nicolas Laperruque aussi quand nous avions essayé de cette mauvaise tenue de route car la Tour 3, supposée avoir la même plateforme, était beaucoup plus saine, même sans quasiment de soucis. Un point capital, les Atto 3 essayés étaient montés en Bridgestone. Les Linglong arrivent à avoir à la fois des flancs peu rigides qui donnent une sensation de flottement en grande courbe et une gomme dure qui empêchait de passer la motricité. Même en excluant la problématique pneumatique, je suis étonné de la gestion de BYD du passage de la puissance au sol sur les trois modèles que j'ai essayés. Atto 3, Anne, Dolphin, à chaque fois, le passage de la puissance n'est pas du tout progressif et lissé alors que l'électronique permet de faire des miracles. Le jour et la nuit par rapport à une ID3 ou une Mégane E-Tech qui, de ce côté-là, sont quasi parfaites. Donc, second essai et avec les pneus qui seront livrés aux clients, donc ce qui est le plus intéressant, les progrès sont importants, mais les Hankook ne valent sans doute pas les Michelin ou les Bridgestone qui équipent les Atto 3 et les Han. En complément de ces nouveaux pneumatiques, l'électronique, comme je vous l'ai dit, a été retouchée pour que la puissance arrive moins brutalement. Sur le sec, c'est clairement le jour et la nuit par rapport à la première version essayée. Même si l'on met pied au plancher, on subit toujours quand même une alternance de patinage et de coupure moteur intense. Si c'est plus vivable que ce que nous avons ressenti lors du premier essai, cela reste pour moi très en dessous de la concurrence européenne et américaine. Américaine, bien sûr, vous avez compris, pour Tesla. Et pour information, en France, nous ne roulons pas toujours sur sol sec et chaud. Sur les routes du cœur de l'hiver, avec un sol froid et humide, la motricité est continuellement prise en défaut. Si surprenant que j'arriverai à faire un écart latéral de 50 cm sur une accélération, certes un peu vive, mais pas pied dedans, sur un passage piéton mouillé. De même, tout démarrage un peu vif sur le mouillé et en côte génère des rebonds de suspension et de gros coups de boutoir. En conduite sur départementale, c'est plutôt le train arrière qui ne me donnera pas confiance, avec une sensation de flottement continu et de mise en appui incertain. J'ai trouvé le freinage sans problème quand on est dans une position de régénération mise au maximum. La transition entre régénération et freinage est un peu moins fine en mode de régénération faible. Comme beaucoup de concurrentes, la Dolphin dispose d'un freinage régénératif assez faible, même mis au maximum, et ici, c'est donc impossible de rouler en mode one pedal, ce que je trouve dommage quand on a une utilisation assez urbaine vu la taille du véhicule. Pour conclure, l'éclairage, pourtant à LED, ne dépasse pas pour moi en performance des halogènes concurrents de plutôt bonne qualité. Côté insonorisation, nous avons pu relever 68,5 à 100 km/h sur chaussée lisse et 70,5 décibels à 115 km/h. Juste pour rapport, une ID3 facelift fait 64 et 67, soit globalement entre 4 et 3 décibels de plus pour la BYD. Et 3 décibels, c'est le double de bruit. Donc j'ai trouvé la voiture globalement assez bruyante. Il faut le reconnaître que l'ID3 est très très performante sur le côté silence. Si on parle d'électronique embarquée, pour moi, une voiture chinoise, dans ma conception, se doit d'être suréquipée par rapport à la concurrence pour un même niveau de prix. Notre BYD Dolphin haut de gamme dispose d'une ouverture-fermeture à distance sans clé, mais j'ai pas réussi à la faire marcher. Mais ça, c'est peut-être moi qui suis nul. En tout cas, c'est pas intuitif pour la faire fonctionner. Côté autoradio et son, c'est dynamique avec du coffre et ceux de série, donc plutôt très bien. Avec un petit détail qui chagrine, le bouton rotatif de réglage du son qui est sur le tableau de bord, il y y en a aussi un sur le volant, sert aussi, quand on appuie dessus, à éteindre l'écran. Pas toujours facile de contrôler sa petite main en roulant et ne pas éteindre l'écran alors que l'on veut régler le son. Je n'ai que peu utilisé le GPS qui, comme je l'avais constaté sur la T3, continue à se décaler généreusement entre l'affichage de l'itinéraire et la réalité de la route. Quand on est au téléphone avec la navigation en route, la fenêtre qui s'affiche pour indiquer que l'on est en ligne cache la croix pour arrêter la navigation. Donc il est impossible de couper la navigation et ses commentaires des fois un peu pénibles en étant au téléphone. Pas très pratique. Vous voyez, un cumul de petits détails. Sur le haut de gamme design, un emplacement dans la console intègre la recharge à induction de série. Plutôt efficace, il ne fait pas chauffer le téléphone. Ce n'est pas toujours le cas. Par contre, pas de CarPlay sans fil. Et on dispose en complément d'un allume-cigare dans le bas de la console et de deux connecteurs USB-C avec deux puissances de recharge et dont un qui assure la transmission de la data vers l'écran. La vitre arrière est très petite et son balai a une dimension en conséquence. Ce qui laisse des deux côtés une large part de la vitre non essuyée. Ça, c'est un peu souvent le cas. Mais par contre, pour compenser, on a tendance à mettre un peu plus le dégivrage pour éliminer l'eau quand il s'arrête de pleuvoir. Et là, j'ai constaté que ça manquait un peu de puissance. Un autre, je vais dire, gadget qui est offert est une caméra 360 qui se met en route de façon assez... on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle se met en route et pourquoi. Et surtout, la qualité de son image est très moyenne. Quand on monte dans une Tesla d'ancienne génération, on voit une très très grosse différence. Ce qui fait qu'elle est souvent inutile et elle s'allume souvent quand on tourne. Et donc, on a plutôt besoin aussi du GPS. Elle se superpose à l'écran. Donc, des petits soucis d'ergonomie de ce côté-là. Un autre détail, vous voyez, sur le 360, quand on se gare en marche arrière dans un parking de supermarché, il y a toujours des poteaux. Et si vous en avez un qui est sur le côté, en fait, eh ben, le calibrage de la visibilité est fait de telle façon qu'il ne bip pas et qu'il ne voit pas quand vous êtes dans une situation en marche arrière en tournant quelque chose qui risque pourtant d'être dans l'axe. Bon, je vous ai parlé un peu d'électronique. Je vais compléter sur les aides à la conduite, les célèbres ADAS, que je ne maîtrise pas tous parce que c'est compliqué. Pour une fois, j'ai fait une rubrique spécifique et je me suis forcé à garder, en tout cas les trois quarts de l'essai, toutes les aides à la conduite pour voir comment ils fonctionnaient. Un bouton sur la console centrale, pour autant, permet d'en enlever la majorité, ce qui simplifie la vie. Dieu merci, sans passer par tous les écrans. Mais le détecteur de panneaux n'est pas concerné et si on le supprime, il se remet en route à chaque démarrage. Et c'est alors un festival de sonneries à chaque dépassement, souvent supposé de vitesse. La dolphine patauge allègrement pour reconnaître les panneaux. Et quand vous avez le GPS, la voix de la dame vous dit en plus de vive voix que vous roulez trop vite. C'est formidable. Donc la seule solution, c'est de rentrer à chaque redémarrage dans l'interface pour supprimer la détection de panneaux. Et je vous rappelle qu'au 1er juin 2024, cette fonctionnalité sera obligatoire. Et surtout, elle agira sur votre pédale. C'est-à-dire que quand le panneau va voir 30 km/h, même si c'est 60 et qu'il a vu un panneau qui est sur une voie de décélération, la voiture va freiner. Il va falloir appuyer sur le champignon, c'est le cas de le dire, pour l'écraser et forcer la voiture à continuer à rouler. Ça va être magnifique. Donc, la réglementation, et là, ce n'est pas les constructeurs, demandent des choses que les constructeurs n'ont pas encore atteint en termes de qualité. Mais rassurez-vous, les Chinois sont concernés, mais d'autres marques européennes ont du mal aussi à gérer toutes ces aides à la conduite qui vont devenir obligatoires et qui ne fonctionnent pas. C'est assez dramatique. Passons à la recharge. Elle est située, la prise en tout cas, est située à l'avant-droite. Ça, c'est plutôt pratique parce que ça permet de se garer en marche avant quand on recharge. Le constructeur annonce une recharge de 10 à 80% en 40 minutes. J'ai eu du mal à atteindre ces données, même très loin, et surtout de comprendre quels sont les critères qui guident la puissance de recharge de la batterie de la BYD Dolphin. Sur une première charge, en partant de 4%, j'obtiendrai 60 watts de puissance de charge en pointe. C'est supposé être possible de monter à 88. Dans un autre cas, en partant de 7%, je ne monterai qu'à 42 kW, dans les deux cas, avec une voiture qui a déjà roulé, la batterie déjà chaude. Donc, je ne comprends pas. Et même dans le deuxième cas, une température extérieure plus élevée qui devrait permettre un meilleur fonctionnement de la recharge. En tout cas, je n'arriverai jamais à atteindre le 88 kW, et ce qui m'a amené à attendre plus d'1h20 pour une recharge complète et plus d'1h pour recharger de 10 à 80. Pour rappel, une Mégane E-Tech réalise, pas n'affiche, 20-80 en 37 minutes et une MG4 en 25 minutes. Et aussi un petit détail, en cours de charge, si vous n'avez pas, si vous avez coupé le contact et que vous mettez la voiture en charge, eh bien vous ne pouvez plus remettre le contact, par exemple, pour avoir la radio, etc. Donc c'est un peu désolant. Et même j'ai eu la ventilation qui se mettait en route, mais je ne pouvais pas la commander. Ça fait tout drôle. La BYD Dolphin annonce dans sa finition supérieure 204 chevaux. Et clairement, pour lisser les pertes de motricité, la courbe de livraison de la puissance a été aplatie. Mais la voiture reste encore très rapide en accélération et en reprise. Par contre, dès qu'on passe en dessous de 20% de batterie, quel que soit le mode de conduite choisi, sport, éco, normal, eh bien, elle coupe la puissance pour rallonger l'autonomie à 11% de batterie avec une voiture et une batterie chaude. J'ai pris la montée de la N110, pour les Parisiens qui connaissent, c'est une 4 voies qui monte fort, et puis où il y a beaucoup de trafic, vous n'avez pas tellement envie d'être en vitesse lente, eh bien, je n'arrivais pas à regrimper au-delà de 70 km/h. Pas très sympa et assez dangereux. Je ne pouvais pas agir sur l'aspect, ça m'a fait penser à une expérience que vous avez en lien dans l'article avec une Clio électrique, hein, au même endroit il y a 25 ans. Et puis un petit détail un petit peu agaçant, quand vous voulez suivre la consommation de la Dolphin, vous ne pouvez afficher que les 50 derniers kilomètres. Donc c'est un petit peu réducteur, vous avez pas, vous pouvez pas calibrer votre suivi de consommation sur le dernier plein ou la dernière recharge par exemple, mais uniquement sur les 50 derniers kilomètres. Parlons prix. Donc parlons au futur, sans bonus, parce que pour autant elle en a encore un petit peu tant qu'il n'y a pas de décret d'application pour 2024. La version 204 chevaux en confort commence à 33 990 euros avec la batterie de 60 kW et elle monte à 35 990 avec la version haut de gamme qui intègre la peinture Biton, le toit panoramique et les jantes de 17 pouces. Petit rappel, une ID3 Performance que l'on a essayé dernièrement navigue autour de, avec le bonus, à 34 990 euros, donc à peine 1000 euros de plus pour un équipement à peu près comparable. Une Model 3 propulsion est à 42 990 parce qu'elle n'a pas de bonus, mais elle supposait en avoir. Enfin bon, c'est une grande interrogation, on ne sait même pas où sont produites les Model 3 Y qui seront les concurrentes des Atto 3. La Cupra Born est-elle à 39 600 et une MG4 avec ses baisses de tarifs sans bonus est à 33 490 euros et avec une version 240 chevaux et une batterie de 77 kW à 36 990. Là, il y a clairement une vraie valeur ajoutée prix-produit avec un produit qui est sympa. Et même une Mégane E-Tech qui traînait la réputation d'être très chère avec son repositionnement et l'avantage du bonus arrive à être super compétitive avec 220 chevaux, donc un peu plus de chevaux, une recharge en AC à 7 kW au lieu de 11, mais c'est un détail. Et donc, elle est à 33 000 euros, donc extrêmement compétitive. Et puis, pour vous faire rire aussi, je vais vous raconter mes pérégrinations et mes problèmes de recharge sur cet essai. Et ce que ça m'a fait rebondir sur des camarades qui disaient « ça n'arrive qu'à nous, les journalistes ». J'ai essayé de me recharger à Vélizy, sur Tesla, sur Easyvia. À chaque fois, j'ai eu un problème. Lisez l'article, ça vous fera rire. Moi, un peu moins, parce que c'est quand même très, très compliqué. Et pour une fois, Tesla était aussi pas très brillant. C'est-à-dire que mon adresse de facturation, c'était New York, et enfin les États-Unis. Donc, il fallait que je mette une adresse à New York, parce que sinon, ça ne marchait pas et je ne pouvais pas recharger. Un grand moment de cinéma. En tout cas, à bientôt pour un nouvel essai.